Non, et c'est d'avoir une méditation pour le nouvel an. 1 Pierre chapitre 1, je vais lire, relire un ou deux versets. On a eu une longue lecture. C'est pas souvent qu'on fait une lecture aussi longue, mais ça ne fait pas de mal. Quand je vivais en Afrique, les lectures comme cela étaient longues au culte, parce que beaucoup de gens dans l'assemblée ne lisaient pas, et c'était leur seule lecture biblique. Quand ils étaient dans l'assemblée. En fait, la plupart de l'histoire, c'était probablement comme ça. La plupart de l'histoire, la plupart des gens étaient illettrés. Et rappelons-nous que ils écoutaient la parole de Dieu plus qu'ils ne la lisaient. Bien. Je relis tout simplement le verset 14 et 15 et 16. Comme des enfants obéissants, dit notre Seigneur à nous par l'apôtre, ne vous conformez pas aux désirs que vous aviez autrefois dans votre ignorance. Il y a des choses qu'on veut vraiment quand on est ignorant. Mais de même que celui qui vous a appelé, donc Dieu, est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, citation de l'Ancien Testament, vous serez saint, car je suis saint, dit Dieu. Vous serez saint, car je suis saint. Vous êtes tous en train de devenir quelque chose. Même si vous avez 70 ans, même si vous avez 23 ans, vous êtes en train de devenir quelqu'un. Vous avez rencontré une personne très âgée, avec un caractère trempé, d'une certaine sorte, qui n'était pas vraiment comme ça 50 ans avant. Mais cette personne est devenue quelque chose. Ou bien, dans le sens contraire, vous avez rencontré ou vous connaissez une personne âgée, excusez-moi, nous qui sommes plutôt âgés, qui ont des cheveux gris, mais je parlerai aux jeunes aussi. Une personne âgée qui, auparavant, était peut-être un peu brusque, un peu impatient. Mais au fil des années, les choses ont changé. Et maintenant, quand vous êtes avec cette personne, quelle douceur, quelle patience. Cette personne est devenue quelque chose. Et dans cette nouvelle année, c'est le temps des résolutions, n'est-ce pas? Et une des résolutions que le chrétien doit toujours avoir, et que vous devez tous savoir, parce que vous êtes tous des créatures de Dieu, il vous appelle à cela, il vous dit, soyez saints, car moi je suis saint. Il y a beaucoup de gens dans le monde aujourd'hui qui n'ont aucune résolution aujourd'hui, parce qu'ils n'ont aucun but vis-à-vis de leur caractère, de ce qu'ils sont en train de devenir. Est-ce que vous avez un but? Est-ce que vous visez quelque chose dans le domaine de ce que vous êtes, de qui vous êtes? Ou bien, est-ce que vous êtes une de ces personnes qui ne pense jamais à un truc pareil? Tout ce que vous voulez, c'est de plaire à la personne que vous êtes actuellement. Voilà. C'est tout. Et j'imagine que beaucoup de gens sont comme ça, nous tous, un peu trop. Ou bien, peut-être vous avez un but. Il y a pas mal de gens qui visent quelque chose, qui veulent vraiment être beau, belle. C'est-à-dire, leur but, c'est plutôt physique. Et ils pensent beaucoup à ça, et ils font beaucoup pour ça. Parce que c'est leur but, ils veulent devenir quelque chose. Ou bien, il y a des gens qui veulent devenir des réussites. Donc, ils ont un but, c'est vocationnel, ils veulent devenir quelqu'un qui brasse des affaires, qui monte dans l'échelle au travail, n'est-ce pas? Et je ne dis pas qu'il y a quelque chose de mauvais en soi, dans cela, hein? Ni dans le fait de vouloir être plaisant à voir. D'accord? Je dis juste que si ma vie tourne autour de cela, voilà, je suis loin. Je suis un sujet de chagrin pour l'univers. Vous êtes un sujet de pitié, de larmes pour les anges. Parce que créé à l'image de Dieu, vous voilà devenu quelqu'un focalisé sur la grandeur de ton nez, ou bien la lisseur de ta peau. Quel dommage. Bon, ou bien peut-être vous voulez devenir quelqu'un de puissant, de populaire. Vous avez un but. Mais pour nous, nous avons un appel du ciel, du Créateur lui-même. Il y a un but, une raison d'être. Vous deviez avoir. Soyez saints comme moi je suis saint. Il y a quelque chose à devenir. Maintenant, le problème, c'est que le mot saint, oh là 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 là, dans la culture française, ce mot est devenu, qu'est-ce que cela est devenu même? Le mot saint évoque de telles pensées, n'est-ce pas? Des bougies, de l'encens, des gens cantonnés dans un monastère peut-être, ou bien des gens qui se privent de ceci et de cela. Qu'est-ce que ça évoque chez vous? Saint. Je n'ai pas de télé. Je ne fais pas ceci, je n'ai pas cela. Peut-être ça évoque de telles choses. Mais en tout cas, ce n'est pas ce à quoi Dieu vous appelle. Le mot saint a un autre sens et aujourd'hui, je voudrais juste vous pousser à avoir une résolution envers la sainteté biblique. Ok. Maintenant, après cette longue introduction, premier point et je vais essayer d'aller assez rapidement. Pourquoi les chrétiens sont-ils motivés pour rechercher une vie sainte? Et je vais juste vous dire au début, je vais le définir plus, mais la sainteté, c'est simplement la beauté morale. La beauté morale. D'accord? Et nous verrons ce que ça veut dire tout à l'heure. Pourquoi est-ce que les chrétiens désirent cette beauté, cette magnificence, cette excellence dans le caractère, dans ce que je suis. Première raison, attraction. Les chrétiens sont attirés à la sainteté parce qu'ils voient chez Dieu et chez Jésus-Christ qui révèle Dieu, ils voient en Christ quelque chose qui dépasse tout autre chose et personne dans le monde. Sa grâce. Et nous avons vu sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père, rempli de grâce et de vérité. Et ceux qui le connaissaient disaient, venez voir, nous avons trouvé le Messie. Comment vous savez que vous avez trouvé le Messie? Vous avez été avec lui pendant 3 jours. Ah! On n'a jamais trouvé personne comme lui. Et cette attraction est très importante pour nous. Le psalmiste dit ceci: Délivre-moi des hommes par ta main éternelle, des hommes de ce monde, leur part est dans cette vie, et tu remplis leur ventre de bien, leurs enfants sont rassasiés, et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Mais pour moi, avec justice, je verrai ta face un jour, Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Vous voyez, il est attiré. Il dit, j'attends ce jour où le monde va finir et glorifié subitement par la venue du Christ et par la vue du Christ, complètement changé, je vais me rassasier d'être devenu comme toi. Je me rassasierai de ton image. Donc nous sommes attirés par Christ et ce qu'il est. Et je voudrais vous expliquer pourquoi l'attraction, cette attraction est importante, que vous soyez attirés par la sainteté. Quand j'étais jeune, mon père était entraîneur de basket et j'étais souvent au terrain de basket avec lui. Je regardais les entraînements jour après jour. Je prenais les ballons pour les donner aux joueurs qui étaient très grands pour moi. J'avais 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et il y avait un joueur en particulier qui m'impressionnait. Il s'appelait Charlie Fleming. Alors, Charlie était incroyable. Il était incroyable en tant que joueur parce qu'il pouvait dribbler entre ses jambes sans regarder. Il avait une facilité et il mâchait constamment le chewing-gum. Constamment. Même dans les matchs, et même quand il jouait, il y avait une bulle parfois qui sortait de sa bouche, et je m'émerveillais parce que ça ne s'éclatait jamais sur son visage. Il était cool, vraiment, pour moi. C'était le top. Et ce qui était encore plus merveilleux chez lui, c'était pas simplement qu'il était un bon joueur, il y en avait d'autres, mais c'était qu'il était tellement sympa avec moi. Il y avait beaucoup des joueurs dans l'équipe qui ne me regardaient jamais. Passaient à côté de moi, j'étais un petit gamin, et ils m'ignoraient complètement. Mais Charlie, quand il arrivait, il venait vers moi, il me tapait, il me donnait le ballon, il me parlait. Et il était sympa, sympa, sympa. Et moi, je voulais être Charlie Fleming. Je voulais être, pendant ces quelques années où il était dans l'équipe du lycée, mon but, c'était d'être comme lui. Et c'est peut-être largement à cause de lui que j'ai eu pendant les années de ma jeunesse un grand désir d'être basketteur. C'était la puissance de l'attraction. Vous voyez, vous ne pouvez pas avoir cette puissance simplement par un code ou une loi, soit comme ça. Un code ou une loi ne peut pas vous attirer à la sainteté. Vous devez voir ça en quelqu'un et dire, oh là là. Ça, c'est ce que je veux être. D'accord? Deuxième chose qui nous attire vers la sainteté, c'est la satisfaction. Pas la nôtre, la sienne. Nous avons lu dans ce passage que Dieu dit, vous serez saints car je suis saint. Et la Bible nous dit ceci. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Vous voyez, Dieu le Père aime beaucoup son Fils, son caractère saint. Et il aime son propre caractère. Dieu s'aime. Il est le seul qui puisse le faire sans être égoïste. Comment est-ce qu'il ne pourrait pas s'aimer? Il est perfection infinie. Et lorsqu'il voit son image en nous, l'amour, la bonté, la fidélité, la véracité, l'intégrité, la douceur, il dit, ah, c'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. Et donc, le psalmiste dit que Dieu est juste et il aime les hommes justes. Et nous avons un plaisir à savoir qu'en devenant comme lui, nous lui donnons du plaisir. Il n'y a rien qui donne du plaisir à Dieu dans ta vie que ce que tu es. Attention les évangéliques. Parfois nous pensons que c'est ce que nous faisons, n'est-ce pas? Telle personne a fait tel exploit dans le monde chrétien. Cela a très peu d'importance par rapport à ce que tu es. Donc, attraction, satisfaction, le fait de satisfaire Dieu par ce que nous sommes en train de devenir, et troisièmement, anticipation. Anticipation. Dans 1 Jean chapitre 3, Jean dit ceci, je vais quand même juste vous le lire. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, Christ, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Je lis ce passage pour vous montrer que une chose qui nous attire à la sainteté, c'est que c'est ce que nous allons devenir. C'est-à-dire que une vie sainte, c'est un peu le langage, la musique du ciel. D'accord? Lorsque vous allez vivre dans un autre pays qui parle une autre langue, qu'est-ce que vous faites avant de partir? Ben, vous commencez déjà, en anticipation, à apprendre le langage du pays. N'est-ce pas? Parce que vous voulez être à l'aise dans le pays, vous voulez faire partie des gens. N'est-ce pas? Et le ciel, le paradis, le monde, le royaume de Dieu à venir, c'est un monde de perfection morale, c'est un monde de sainteté, un monde d'amour. Et nous avons envie de devenir saints parce que nous y allons, il faut qu'on s'y prépare. Moi, je veux apprendre le chant avant de devoir le chanter. N'est-ce pas? Et aller au ciel, c'est pas simplement éviter l'enfer. N'est-ce pas? C'est faire partie de la chorale. Il ne suffit pas d'être là. Il faut pouvoir chanter le langage de la bonté, de l'amour, de la justice, de la véracité et tout le reste, n'est-ce pas? Et donc, un de nos buts, une des raisons qui nous attire, c'est que celui qui a cette espérance, qui sait que je vais devenir à l'image de Christ un jour, celui qui a cette espérance se purifie comme lui-même est pur, c'est-à-dire je m'apprête déjà. Bien. En quoi consiste donc ce caractère vertueux que vous devez viser cette année 2015? C'est quoi exactement? La première chose que vous devez savoir, c'est que le caractère chrétien découle de trois vertus clés. Et la Bible en parle constamment. Vous pouvez me les dire, ces trois vertus cardinaux, on les appelle. C'est quoi? Oui, l'amour, la foi et l'espérance. Très bien, ok. Donc, nous voyons par exemple en 1 Corinthiens 13, 13 que Paul dit, et maintenant dans cette vie présente, il y a trois choses qui restent, qui durent. La foi, l'espérance et l'amour. Donc, Dieu met beaucoup d'accent là-dessus. Il y a trois choses, dit l'apôtre, qui ne peuvent pas. Les dons miraculeux, ça peut partir. Ça peut ne pas faire partir de cette époque. Mais il y a trois choses auxquelles nous tenons. Donc, la foi, c'est quoi? Si vous allez viser ça, il faut savoir ce que c'est. La foi, c'est une disposition de cœur par laquelle vous estimez que Dieu est complètement fiable, fidèle, adéquat, qu'il est plein de tout ce qu'il vous faut. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. C'est ça, cette disposition de cœur. Où je me vois faible, je me sais vide en moi-même, et dans mon caractère, j'ai tendance à me fier à lui, être confiant en lui, à m'appuyer sur lui. C'est un caractère. Quand quelque chose de dur arrive, est-ce que ton caractère, ta tendance, ton penchant, c'est d'essayer toi-même de t'en sortir? Ou bien, est-ce que de plus en plus tu as ce caractère de foi en Dieu, tu tournes vers lui avec confiance? C'est ça. Okay? Deuxième qualité, l'espérance. C'est quoi? L'espérance, c'est un peu comme la soif. Le chrétien a un caractère où il espère. Il a une disposition de cœur qui est anticipative. C'est-à-dire, tu as goûté que le Seigneur est bon, mais tu sais que tu n'as fait que goûter. Et la plénitude est à attendre. Et tu es sur les pointes de tes pieds de plus en plus. Tu regardes l'avenir glorieux de plus en plus. Au début de ta vie chrétienne, tu n'y pensais pas trop. Tu pensais à ta vie chrétienne ici-bas. Mais de plus en plus, ton caractère change. Et tu penses, tu regardes. Un des vieux puritains anglais, Samuel Rutherford, disait: je suis un homme parfois courbé et attendant avec envie les noces de l'agneau. Il disait, mon caractère est devenu de plus en plus rempli d'espérance dans l'attente. Est-ce que vous avez ce caractère? Ouh! Ce message, le préparer, m'a mis sur mes genoux quand je me compare au caractère saint que Dieu veut que j'aie. L'amour, la foi, l'espérance, l'amour. L'amour, c'est quoi? L'amour, c'est une disposition de cœur positivement orientée vers les autres. C'est ce penchant de cœur par lequel tu es pour les autres et pas contre, ou pas renfermé en toi-même, pensant à toi-même, menacé par le besoin des autres parce que je dois penser à moi-même. C'est une disposition à avoir de l'égard pour les autres, à les voir comme importants et même à t'identifier avec eux de sorte que tu ne peux pas être heureux sans qu'ils soient heureux. C'est une disposition de cœur qui sort de toi-même, qui veut embrasser le monde et qui veut bénir, n'est-ce pas? C'est une disposition merveilleuse, n'est-ce pas? C'est absolument formidable. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui aime et qui aime beaucoup, c'est une merveille à voir. Et Dieu nous appelle à ça, et c'est ça la sainteté. Ok, donc je vise ce caractère confiant en Dieu, la foi, anticipatif, l'espérance, aimant les autres, l'amour. Mais il y a plus à dire. La Bible, quand elle définit notre but, elle nous dit une deuxième chose. Ça va, on peut y aller? On laisse les trois vertus cardinaux et on va parler des trois directions de la sainteté. Ok? Je vais vous lire Tite chapitre 2 et on va rapidement comprendre cela. Mon but, tout simplement, aujourd'hui, c'est de mettre une image très nette dans votre esprit de ce que vous devez viser. Donc, Tite, chapitre 2, versets 11 à 13. Écoutez bien. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux désirs de ce monde et à vivre dans le siècle présent. Écoutez bien. D'une manière sobre, juste et pieuse. Paul nous dit trois choses. La grâce de Dieu nous enseigne à vivre d'une manière sobre, juste et pieuse. Pourquoi ces trois? Parce que ce sont trois directions. Sobre, ça parle de ma relation avec moi-même. Juste, ça parle de ma relation avec les autres, et pieux, ça parle de ma relation avec Dieu. Si tu vas devenir saint, il faut avoir une bonne relation avec toi-même. Tu as une bonne relation avec toi-même? ou bien est-ce que tu te détruis? Alors, on va parler juste une seconde de la sobriété. Sobre, c'est ta relation avec toi-même. C'est quoi la sobriété? Le mot biblique parle du fait que vous devez avoir un usage modéré de tous les biens que Dieu vous donne. Dieu nous donne beaucoup de biens, n'est-ce pas? Beaucoup de bonnes choses, on peut jouir. Mais notre problème, c'est que notre cœur est tordu. Donc, nous pouvons nous emparer de ces choses d'une manière qui est extrême, qui est très destructif. Donc, la sobriété, c'est donc le contraire de la cupidité. Je veux plus d'argent, de la convoitise. Je veux ce que je n'ai pas. De l'indulgence, de l'excès de table, de l'ivrognerie, du matérialisme, c'est pas un usage modéré, le matérialisme, de l'immoralité sexuelle, c'est pas sobre, on n'est pas contrôlé, maîtrisé, la paresse physique aussi, la bouffonnerie, la légèreté de caractère et toutes les conduites extrêmes. Je vous donne un petit exemple. Voilà un adolescent, un garçon, je vous précise, et il reçoit un, qu'est-ce qu'on appelle ça? Un PlayStation. Ok, d'accord. Vous savez, c'est console de jeux vidéo. Et disons qu'il a des jeux qui ne sont pas violents, etc. Hein, des jeux qui sont même peuvent être intéressants et qu'il peut inviter ses copains. Et ça peut être une bonne chose. Mais attention. Vous voyez le problème déjà? C'est le caractère. Le caractère de l'ado n'est pas empreinte de sobriété. Et s'il ne fait pas un usage modéré de ce bien, il va aller dans l'extrême, n'est-ce pas? Et ça, c'est simplement le manque de sobriété. Et là, il a des problèmes. Et des garçons aujourd'hui en France qui... J'en ai entendu parler il y a quelques semaines d'un garçon qui a fini dans l'hôpital psychiatrique à cause des jeux vidéo. Il d'une famille chrétienne, il a dérapé, il était supposé être à l'université dans les cours, il n'était pas en classe, il était dévoré par le désir de battre tous les Chinois dans tel jeu. Ça, c'est un problème de caractère, un manque de sainteté. Et notamment de sa relation avec lui-même. Et vous voyez, c'est un défaut incroyable devant Dieu qui cause beaucoup de problèmes aux autres, à lui-même, à Dieu. Quand vous n'avez pas de sobriété, vous allez pécher contre les autres par vos excès et vous allez pécher contre Dieu. Bon, vous allez négliger Dieu à cause de vos extrêmes. La sobriété. Est-ce que vous êtes sobre? La deuxième direction, c'était quoi? La justice. La justice, c'est ma relation avec les autres. Et c'est simplement cette conscience de mon devoir d'équité avec les autres. C'est-à-dire, je suis conscient que les autres ont le droit d'attendre certaines choses de ma part. Que je dois leur rendre leur dû. Ce que je veux pour moi, je dois aussi être juste avec eux. Et la personne qui, dans son caractère, devient juste, et j'ai connu des hommes justes, très très intègres. J'ai connu un homme qui était tellement juste que lorsque sa compagnie a fait faillite il y a quelques années dans la crise, une compagnie de construction, il avait un profit de 3 millions de dollars chaque année, il n'a rien aujourd'hui, rien. Il a tout perdu, même sa retraite. Il a perdu sa retraite parce qu'il a refusé de garder ses biens personnels tant qu'il y avait des créditeurs qui n'avaient pas été payés. Et donc, il aurait pu légalement garder certaines choses personnelles parce que c'était sa compagnie qui a fait faillite, mais il a rendu personnellement parce qu'il était, c'est un homme qui est imbu de justice, de faire ce qui est dû, ce qui est juste. Et ça, c'est une chose dans le caractère, dans nos relations avec les autres. Est-ce que vous êtes juste? Troisième chose, c'est la piété. Cette année, je veux grandir dans ma relation avec moi-même, avec les autres, mais avec Dieu, et ça s'appelle la piété. La piété, c'est simplement le fait d'avoir une vie orientée vers Dieu, dans l'atmosphère de la crainte de Dieu, de la reconnaissance envers Dieu et de l'affection pour Dieu. Voilà. Un homme ou une femme orientée vers l'éternel Dieu, son Créateur et son Sauveur. Est-ce que vous êtes pieux ou impie? Si vous êtes impie, vous avez besoin de répondre à la bonne nouvelle. Venir à Christ, parce qu'il veut que vous veniez à lui. La piété, c'est le contraire du blasphème, de l'idolâtrie, d'adorer des faux dieux qui n'existent pas vraiment, de la magie. Est-ce que vous pratiquez la magie, l'occultisme, le voyeurisme, toutes les formes d'occultisme? C'est le contraire de prendre le nom du Seigneur en vain, si tu es pieux, de prendre à la légère les choses spirituelles. C'est le contraire d'une vie sans prière. Est-ce que tu as une vie sans prière? Est-ce que c'est ton caractère de vivre sans jamais parler à Dieu? C'est le contraire d'une attitude humaniste, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est toujours l'homme, les droits de l'homme, les droits de l'homme, et jamais les droits de Dieu. Voilà. Ok, voilà les trois directions. Je vais sauter le point C pour finir avec le point D et ne vous effrayez pas, je vais aller encore plus rapidement sur le point D, bien qu'il y ait 9 fruits. Je vais quand même vous lire Galates 5, 22 et 23 et on va finir, mais rapidement avec ceci. Mais il faut le faire pour finir le tableau. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre de telles choses. Alors, si vous êtes vraiment balèze, vous avez compté qu'il y avait 9 fruits. Je pense pas, mais il y en avait 9. D'accord? Et les théologiens et les commentateurs disent que probablement ces 9 se retrouvent dans l'ordre de Paul en 3 triades, 3 groupes de 3. Ok? On les cite comme ça. L'amour, la joie, la paix, première triade. La patience, la bonté, la bienveillance, deuxièmement. Et la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, troisièmement. Dans ton caractère, il y a d'abord son état fondamental. Ça, c'est les 3 premiers. Fondamentalement, le caractère que nous devons avoir devant Dieu et qu'il est en train de produire en vous, en Christ, hein, il est en train de le faire. L'amour, la joie, la paix. Et nous avons parlé de l'amour, mais la joie, c'est simplement cet optimisme et cette célébration du triomphe de Christ. Réjouissez-vous, car j'ai vaincu le monde, dit le Seigneur. D'accord? La joie, ça c'est un caractère. Est-ce que vous avez rencontré des gens qui sont moroses, qui sont toujours inquiètes, pour qui la vie tourne autour des problèmes et pas des solutions? N'est-ce pas? Nous avons tous vu cela. Des gens qui sont alourdis, et pour qui les problèmes sont plus grands que le triomphe de Christ. Et cela ne doit pas être chez nous. Si nous avons la joie dans notre caractère de plus en plus, c'est que nous voyons que quelles que soient les batailles, et il y en a, et Dieu a voulu qu'il soit ainsi. Quelles que soient les épreuves, et Dieu a voulu qu'il soit ainsi pour le moment. Christ a triomphé sur vos péchés, toute votre culpabilité et tout ce qui vous fait barrière entre Dieu et vous. Il a pris soin de cela. La victoire est assurée. La gloire est certaine. Le salut est irrévocable. Son amour est invincible. Et rien ne peut vous séparer de l'amour de Christ. Ni la vie, ni la mort, ni les choses d'en haut, ni les choses en bas, ni rien. Car Christ a vaincu. Et ça, c'est là. Ça crée un caractère de joie. Joie même à travers les larmes parfois. Je ne parle pas de ce sourire faux que les gens religieux pensent devoir avoir pour être le bon chrétien. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelque chose vraiment caché dans le cœur où je suis joyeux que le Christ a tout accompli. Je suis pardonné, sauvé, réconcilié avec mon Créateur, revenu à lui et je suis destiné à la gloire. L'amour, la joie, la paix est liée à cette joie, mais cette attitude basique que Dieu contrôle toutes choses. Il est en train de prendre soin de tout et je peux être apaisé et en repos dans mon âme. Il est infiniment plus grand que le mal et tout ce qui est pas bien dans ce monde. Ok, imaginez-vous avec une attitude fondamentale et grandissant cette année d'amour, de paix, de joie. Deuxième triade, c'est donc la patience, la bonté, la bienveillance. Et ça, c'est votre caractère envers les autres. Ok? Et je ne vais pas dire grand-chose, je vais juste vous dire que la patience, vous comprenez, c'est passif. C'est lorsque les autres ne sont pas bien, vous êtes patient, vous endurez. La bonté, le mot signifie une vertu qui est qui est neutre, c'est trop fort, mais c'est une attitude qui n'est pas forcément agissante, accomplissant quelque chose, mais c'est une attitude de sympathie envers les autres, la bonté. La bienveillance, par contre, est une bonté agissante, où on ne peut pas rester là sans rien faire, n'est-ce pas? Ok? Et donc, c'est vraiment beau, n'est-ce pas? Un homme, une femme, patient, bon, bienveillant. Et enfin, il y a le troisième triade, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Ça, c'est notre caractère en relation, en face à nos circonstances et surtout aux problèmes, aux difficultés. Face aux circonstances de la vie, aux défis, aux problèmes, quel est ton caractère? Frustré? En colère? Déprimé? Ou bien fidèle? Doux, c'est-à-dire docile, acceptant les choses. J'accepte que les choses ne sont pas parfaites. J'accepte que ce monde est un monde de vanité. J'accepte ça. Je ne suis pas en train de rejamber constamment contre le fait que c'est un monde déchu. Non, je suis docile. Je suis doux vis-à-vis de ces circonstances. Et enfin, maîtrise de soi. Je ne m'emporte pas. J'ai le contrôle de ma vie face à ces difficultés. Alors, on vient de brosser un grand tableau, n'est-ce pas? Et j'ai l'impression d'être entré dans un monde où on pourrait être explorateur pendant toute une vie. Le monde du caractère chrétien, le monde de la sainteté, est un monde à explorer. C'est très intéressant. Il y a des bijoux, des trésors. Et nous faisons tort lorsque nous n'y pensons pas, lorsque nous n'avons pas de but clair, lorsque nous ne réfléchissons pas à ces choses, lorsque nous ne sommes pas en train d'avancer consciemment, de poursuivre consciemment donc ces vertus et ce caractère chrétien. Donc je voulais juste aujourd'hui, dans cette nouvelle année, vous encourager et m'encourager que Dieu nous appelle à tout cela, et cette beauté de caractère s'appelle simplement la sainteté. Soyez saints, car je suis moi-même saint. Que Dieu nous bénisse et nous aide ainsi. Nous allons chanter un chant pour répondre à la parole de Dieu. C'est le 252. Seigneur du sein de ma misère. Et je l'ai choisi parce que...